Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Introduction à l'anthropologie de Claude Rivière » est un manuel universitaire de synthèse consacré aux concepts, méthodes et grands domaines de la tradition anthropologique, plus précisément ethnologique. Conçu pour donner des repères à des étudiants de licence et de master débutants dans la discipline, le livre privilégie une progression ordonnée plutôt qu'une thèse unique ou une enquête de terrain particulière. Il présente les principales conceptions de la discipline, retrace les courants majeurs de la pensée ethnologique, puis examine quatre dimensions centrales de la vie sociale parentée, économie, politique et religion. Un dernier ensemble ouvre sur les orientations de l'anthropologie contemporaine. Cette architecture donne au lecteur une carte de la discipline, ses questions, ses outils de comparaison et les domaines où ils sont appliqués. Rivière vise une exposition claire des références théoriques essentielles, sans prétendre couvrir toutes les branches de l'anthropologie, les approches biologiques et archéologiques ne constituent donc pas le centre du volume, qui assume de faire de l'anthropologie ethnologique le socle de formation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, concepts et méthodes comme apprentissage du regard comparatif. Le livre commence par les concepts 7 méthodes, choix décisif pour une introduction car il empêche de réduire l'anthropologie à un inventaire de coutumes lointaines. La discipline étudie des formes de vie sociale dans leur cohérence propre et demande de relier pratiques, représentations, institutions et relations. Une méthode anthropologique ne consiste donc pas seulement à relever des différences entre groupes humains. Elle suppose de situer les conduites dans des contextes, de comparer sans transformer une norme familière en mesure universelle, puis de construire des catégories d'analyse explicites. Cette entrée méthodologique aide à comprendre pourquoi les notions employées dans le reste du livre, telles que parenté, pouvoir ou religion, ne désignent pas automatiquement des réalités identiques partout. Elles servent à poser des problèmes comparables, dont les réponses varient selon les sociétés. La clarté recherchée par Rivière a ici une fonction pédagogique précise, donnée au lecteur un vocabulaire de base et des repères pour distinguer observation, interprétation et généralisation. Le manuel invite ainsi à considérer la diversité culturelle comme un objet de connaissance organisé, non comme une simple collection de particularités. Cette fondation rend intelligible la suite. Les grands courants théoriques proposent des manières différentes de définir les faits pertinents et de relier les éléments observés. Deuxièmement, les courants ethnologiques pour situer les théories dans leur histoire. Le parcours des principaux courants de la pensée ethnologique fournit une seconde clé de lecture. Il rappelle que les théories anthropologiques ne sont pas de simples opinions interchangeables. Chacune sélectionne certains problèmes, privilégie certaines relations causales et propose une manière de comparer les sociétés. Présenter ces courants dans une introduction permet de comprendre que les débats disciplinaires portent notamment sur la place de l'histoire, des structures sociales, des fonctions des institutions et des significations attribuées aux pratiques. L'intérêt du survol historique est moins de fixer un panthéon de noms que de montrer comment la discipline a déplacé ses interrogations. Les catégories utilisées pour décrire une société sont-elles même discutées, corrigées et reformulées au fil des recherches? Pour un lecteur débutant, cette mise en perspective évite deux erreurs opposées: croire que toute théorie explique tout, ou croire que les approches sont inutiles puisque les cultures sont diverses. Rivière propose plutôt des références essentielles pour s'orienter entre des cadres concurrents ou complémentaires. Le lecteur peut alors aborder les chapitres thématiques avec une question plus exigeante: quel type de relation entre faits sociaux une analyse cherche-t-elle à établir? La théorie devient un instrument de lecture, à évaluer selon les objets qu'elle éclaire et les limites qu'elle laisse apparaître. Troisièmement, la parenté comme organisation sociale des liens et des appartenances. Le chapitre consacré à la parenté place les relations familiales au cœur de la comparaison anthropologique. Ce domaine ne se réduit pas aux sentiments privés ni aux seuls liens biologiques. Dans de nombreuses sociétés, les manières de reconnaître les proches, de distinguer les générations, de régler les unions ou de transmettre des positions participent directement à la composition des groupes et à la distribution des obligations. Étudier la parenté permet donc de voir comment une société institue des appartenances et ordonne des relations durables. Cette perspective explique son importance dans un manuel général. Elle relie la vie domestique à des questions plus larges de filiation, alliance, autorité et transmission. La démarche comparative est particulièrement utile ici, car des mots ordinaires tels que famille ou mariage peuvent recouvrir des organisations très différentes. Le lecteur est conduit à ne pas projeter spontanément le modèle familier sur tous les contextes. Il apprend au contraire à demander qui est reconnu comme parent, quels liens comptent socialement et quelles conséquences découlent de cette reconnaissance. Rivière inscrit ainsi la parenté parmi les pierres angulaires de tout système social. non parce que toutes les sociétés auraient la même famille, mais parce que toutes organisent, selon des formes variables, des liens de reproduction sociale, de solidarité et de responsabilité. Quatrièmement, économie et politique étudiées comme des institutions sociales liées, les parties sur l'anthropologie économique et politique déplacent le regard au-delà des définitions étroites du marché et de l'État. Dans une perspective anthropologique, produire, échanger, répartir des ressources ou exercer une autorité sont des activités inscrites dans des règles, des statuts et des valeurs collectives. Leur étude exige donc de ne pas isoler trop vite les intérêts matériels des liens de parenté, des hiérarchies ou des obligations sociales. De même, le politique ne se limite pas aux institutions gouvernementales formelles. Il concerne les modalités par lesquelles une collectivité organise décision, commandement, médiation et légitimité. Le rapprochement de ces deux domaines dans le plan du livre a une portée analytique nette. Il invite à examiner comment la distribution des biens peut soutenir des positions de pouvoir et comment les formes de pouvoir encadrent en retour les circulations économiques. Cette attention aux imbrications constitue une initiation utile à la pensée anthropologique, qui cherche des systèmes de relations plutôt que des secteurs séparés. Le manuel ne promet pas une théorie unique de toutes les économies ou de toutes les autorités. Sa fonction est de fournir les catégories nécessaires pour comparer des arrangements sociaux variés, sans les juger seulement à partir des institutions modernes occidentales. Le lecteur dispose ainsi de bases pour analyser concrètement les formes de coopération, de dépendance et de régulation collective. En dernier lieu, religion et actualité disciplinaire entre interprétation et renouvellement, l'anthropologie religieuse et le regard final sur la discipline contemporaine complètent le parcours en montrant que les croyances et les pratiques symboliques appartiennent pleinement à la vie sociale. La religion peut être étudiée à travers des représentations, des rites, des normes et des formes de regroupement. Une telle analyse ne consiste pas à décider de la vérité des croyances, elle cherche à comprendre leur fonction sociale, leur signification pour les participants et leurs relations avec les autres institutions. Cette exigence de suspension du jugement est cohérente avec la méthode comparative introduite au début du volume. Elle permet de traiter les faits religieux comme des réalités collectives complexes, plutôt que comme de simples survivances ou des curiosités. Le dernier chapitre, consacré au regard sur l'anthropologie contemporaine, évite que le manuel ne présente la discipline comme un corpus clos. Après les concepts, les théories et les domaines classiques, cette ouverture signale que les objets, les méthodes et les débats évoluent. Son intérêt est surtout d'articuler héritage et actualisation. Les références fondatrices restent nécessaires pour lire les recherches, mais elles doivent être rapportées aux transformations des sociétés et aux questionnements présents. Le livre offre ainsi une orientation raisonnée, utile pour poursuivre vers des travaux spécialisés, sans confondre les grands repères de formation avec une description exhaustive de tous les champs anthropologiques. En conclusion, Introduction à l'anthropologie convient en priorité aux étudiants de licence et de master débutants en sociologie, ethnologie ou anthropologie, mais aussi aux lecteurs qui cherchent un cadre fiable avant de choisir un domaine plus spécialisé. Son bénéfice pratique est de proposer un ordre de travail clair, acquérir les notions et méthodes, situer les traditions théoriques, puis analyser les grandes institutions sociales. Cette progression rend plus lisible des textes parfois exigeants et aide à employer avec prudence des catégories telles que parenté, échange, pouvoir et religion. Sur le plan intellectuel, le volume forme un raisonnement comparatif attentif au contexte. Il incite à ne pas tenir les institutions les plus familières pour des évidences universelles, tout en évitant de traiter les différences culturelles comme des singularités incomparables. Par rapport à des introductions plus centrées sur une succession de grands auteurs, Rivière se distingue par une organisation qui articule histoire, des idées et domaines d'enquête. Par rapport à des manuels limités à des définitions générales, il donne une place structurante aux quatre dimensions sociales que sont la parenté, l'économie, la politique et la religion. Cette construction offre une vue d'ensemble cohérente, sans masquer le caractère pluriel de la discipline. Le livre ne remplace pas des études de terrain ni des ouvrages spécialisés et il ne vise pas prioritairement les branches biologiques ou archéologiques. Sa force réside précisément dans ce choix d'établir un socle ethnologique lisible, suffisamment large pour orienter les lectures ultérieures et suffisamment organisé pour servir de guide de révision. Si vous souhaitez soutenir Claude Rivière, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !